France Info. France Info.
Oui, c'est une échéance à la fois pragmatique, puisque les changements importants ne se font pas en un jour, et très symbolique, puisque Sciences Po aura alors un siècle et demi. Et si la réforme va au bout, c'est une université américaine qui fêtera ses 150 ans en 2022, puisqu'aux États-Unis, les études supérieures sont clairement découpées en deux temps. Vous effectuez d'abord vos années d'undergraduate, 4 ans pour obtenir un bachelor assez généraliste, puis vous vous spécialisez, vous effectuez un master qu'il est courant de faire ailleurs que dans son université d'origine. Eh bien, Sciences Po veut offrir la même souplesse, on n'y entrerait plus pour 5 ans, mais pour 3 ans, et on poursuivrait au besoin ailleurs, ou bien évidemment, toujours dans une école de Sciences Po, école de journalisme, de communication, de droit, d'affaires internationales, ou encore école doctorale, elles existent déjà, et puis il y a les écoles qui vont être créées, école d'affaires publiques, d'affaires urbaines, et de gouvernance des entreprises. Nous ne pourrons être un concurrent viable par rapport aux bonnes universités américaines et britanniques que si nous arrivons à démontrer que notre formation en premier cycle constitue un tout qui permet de poursuivre ses études à Sciences Po, bien sûr, mais aussi à l'international, a expliqué et souligné Frédéric Millon. Et puis l'objectif, évidemment, c'est aussi de donner de la lisibilité et de séduire les entreprises. Vous avez donc là la structure d'une université américaine qui articule des colleges et un agglomérat d'écoles spécialisées qui cultivent toutes leurs caractères et leurs singularités, écoles de droit, écoles d'ingénieurs, écoles d'art, etc. Et cela, ça s'inscrit vraiment dans une tendance générale de l'enseignement supérieur. Le projet d'université Paris-Saclay prévoit lui aussi, à une échelle d'ailleurs plus spectaculaire, de réunir des grandes écoles, des universités et des centres de recherche.
Et une des réformes phares de Richard Descoings, on s'en souvient, avait consisté à essayer d'ouvrir Sciences Po à des publics défavorisés. L'ambition est-elle maintenue ?
Elle est maintenue, elle est même étendue, puisque le nouveau système devrait permettre d'attirer au niveau master plus d'étudiants issus d'IUT ou d'université, de varier les profils, et puis surtout, même chose pour le premier cycle. Aujourd'hui, on entre à Sciences Po après le bac au terme d'un concours terriblement sélectif, hein, puisqu'on n'a finalement qu'une seule chance, ou bien sinon on rentre 3 ans plus tard, c'est-à-dire en master. Et là, des possibilités d'entrer en cours de premier cycle qui existaient avant devraient être restaurées.
Alors pourquoi choisir le modèle américain ?
Parce que c'est celui qui domine au niveau mondial. Si demain, les classements internationaux choisissaient des critères qui s'adaptent mieux au système français, le débat dans notre pays serait tout autre. Mais pour l'heure, ça n'est pas le cas. Ceci étant, avant d'atteindre ce modèle, il y a quand même loin de la coupe aux lèvres, les universités américaines, elles tirent aussi leur puissance de l'ampleur de leur personnel. Si vous prenez le MIT, 11 000 étudiants, c'est à peu près comme Sciences Po, hein. Plus d'un millier d'enseignants-chercheurs permanents et 10 000 personnels administratifs ou techniques. C'est un ratio qui n'existe absolument nulle part en France, où l'enseignement supérieur est notoirement sous-managé. Tout est fait aux États-Unis pour que les enseignants-chercheurs puissent se concentrer à la fois sur leurs étudiants et sur leurs recherches. Avec le même nombre d'étudiants que le MIT, Sciences Po a 5 fois moins d'enseignants-chercheurs permanents et 10 fois moins de salariés. Vous retrouvez à peu près le même écart, assez impressionnant, avec la London School of Economics à Londres, que Richard Descoings voyait un peu en modèle, puisque cette dernière compte également 10 fois plus d'enseignants-chercheurs permanents. Donc, avant d'atteindre le volume de recherche du top 5 mondial, il faudrait un investissement absolument considérable pour une école comme Sciences Po.
Vous l'avez dit, Emmanuel, le Sciences Po de Richard Descoings faisait les tendances. Cette réforme peut-elle influencer le reste du supérieur ?
Alors d'abord, il y a une forme de continuité, puisqu'en renouant avec la possibilité d'offrir des accès pendant tout le premier cycle, et puis en distinguant très nettement le premier cycle du deuxième, le Sciences Po de Frédéric Millon se rapproche vraiment de l'université, et dans une certaine mesure aussi des grandes écoles, qui proposent toute une gamme assez étendue de possibilités d'accès. En fait, Sciences Po reste, après ce modèle hybride d'université sélective, qui est le modèle que défendait Richard Descoings, alors c'est un modèle qui, dans l'immédiat, n'a pas vraiment de chance de s'étendre massivement aux universités. La sélection reste une question taboue, mais on en voit quand même des traces à Dauphine, qui est sélective, ou bien dans des bilicences, des filières sélectives au sein des universités, j'allais dire rendez-vous en 2022.